Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos exhaustives enrobées d'un humour premium, le tout sur fond de musique de qualité. Et porté par un animateur qui, malgré des bonnes audiences et un portrait flatteur dans Télérama, a su rester simple et pas du tout égocentré. Preuve, sa réaction l'autre jour lorsqu'un membre de l'équipe ose lui dire qu'il est un peu palo.
J'ai une très bonne mine normalement. Ça m'étonnerait qu'avec ma nouvelle crème de jour, je sois blanc. Montre-moi une photo de moi. Ah putain, mon rappel des titres.
Qui est ce connard? Et la phrase qui me vient à l'esprit en entendant ça, quelle stupeur de réaliser que c'est moi. Heureusement, debout les copains, ce n'est pas qu'un présentateur nombriliste, c'est aussi la générosité érudite de Fabrice d'Almeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, à l'occasion du lancement de l'édition 2019, revient sur l'origine du plus célèbre carnaval du monde, le carnaval de Rio.
Bonjour, bonjour à toutes.
A tout de suite, Fabrice.
Merci d'écouter Europe 1 en ce lundi 4 mars. Et très bon réveil, il est 6h. Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 4 mars 2019. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Encore des tensions hier soir à Grenoble, au lendemain de la mort de deux jeunes de 17 et 19 ans qui circulaient à scooter poursuivis par la police. Des voitures ont été incendiées, du mobilier urbain dégradé hier soir. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika veut rempiler, mais brièvement, il a déposé sa candidature. Les manifestations ont immédiatement repris hier soir à Alger. Et puis Marseille a dominé Saint-Etienne hier soir 2-0, notamment grâce à Mario Balotelli et Florian Thauvin. On y reviendra avec Jérôme Lacroix juste après le journal.
Europe 1.
On redoutait de nouvelles violences dans le quartier du Mistral à Grenoble après la mort de deux jeunes de 17 et 19 ans. Ils circulaient à scooter samedi, poursuivis par la police quand ils ont percuté un car. Le parquet évoque pour l'heure un accident. Une information judiciaire a été ouverte pour connaître les circonstances exactes du drame. Écoutez les précisions du procureur de la République, Eric Vaillant.
Ils le suivaient à distance, donc ils ne l'ont pas collé. Et surtout, il n'y a pas eu de choc entre le véhicule de la police et le scooter, puisque la cause de l'accident, ça nous est parfaitement expliqué par le chauffeur du bus. À un moment donné, le chauffeur du bus voit dans son rétroviseur un scooter et un véhicule de police derrière lui et décide de se serrer vers la droite pour laisser passer sur sa gauche le scooter et la police. Or, le scooter prend la décision non pas de passer sur la gauche du bus, mais de passer sur la droite du bus. Et là, il se fait coincer entre le côté droit du bus et le parapet du pont. C'est ça la cause du décès. Les policiers étaient derrière, mais pas immédiatement derrière. Et la vitesse, d'ailleurs, était relativement raisonnable. Voilà ce que l'on sait pour l'instant.
Le procureur de la République, Eric Vaillant, au micro de Rémi Pierre, le procureur qui a reçu les pères, les oncles et une sœur des deux jeunes durant plus d'une heure hier. Le frère de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat meurtrier au marché de Noël de Strasbourg, jugé en comparution immédiate cet après-midi. Malek Chekat a posté des messages menaçants sur Facebook. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2015.
Deux nouvelles manifestations hier soir en Algérie pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika.
Il avait jusqu'à minuit pour déposer officiellement sa candidature. Abdelaziz Bouteflika veut donc rempiler, mais c'est une candidature par intérim qu'il se propose de mener. Il s'engage à tenir une présidentielle anticipée. Pour Kader Abderrahim, chercheur à l'IRIS, spécialiste du Maghreb, le mouvement de contestation en Algérie ne va pas s'affaiblir.
La loi fondamentale, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de la faire appliquer, et c'est lui qui dit sur son site internet, indique que le dossier ouvrez les guillemets, doit être déposé par le candidat, fermez les guillemets. C'est très clair, c'est précis, et on ne voit pas comment Abdelaziz Bouteflika pourrait déposer son dossier, puisqu'il est toujours hospitalisé à Genève. Il ne sera pas là, donc ce sera de toute façon dans la mesure où un autre candidat, le général Ali Gediri, lui aussi a déposé ses signatures, mais l'a fait faire par son directeur de campagne. C'est peut-être une manière de créer un précédent et de dire qu'il doit y avoir une égalité de traitement entre tous les candidats.
Kader Abderrahim hier soir avec Philippe Vandel sur Europe 1. Ça souffle très fort en ce moment sur la moitié nord de la France, des pointes à plus de 100 km/h. 44 départements ont été placés en vigilance orange. De fortes vagues aussi ont été observées sur la façade atlantique. Ça pourrait durer encore aujourd'hui.
Aux États-Unis, au moins 22 personnes ont été tuées hier par une tornade en Alabama, dans le sud-est du pays.
Une tornade qui a provoqué des dégâts catastrophique. Chanel Petit, le bilan pourrait encore s'alourdir dans les heures qui viennent.
Oui, les autorités américaines ne s'en cachent pas. Elles s'attendent à ce que ce chiffre augmente, alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Les secours continuent en ce moment de fouiller les décombres dans l'espoir de trouver des survivants. Quelques heures après la catastrophe, les dégâts sont très impressionnants. Des tas de bois et de ferraille, là où se trouvaient hier des maisons, des arbres fendus en deux, des meubles au beau milieu des champs, car ce n'est pas une tornade qui a touché le comté de Lee à plus de 260 km/h hier, mais deux selon les services météorologiques, en portant tout sur une bande de 400 mètres tout le long de leur trajectoire. Les habitants de la ville de Beauregard, maintenant partiellement en ruine, sont désœuvrés. C'est comme une zone de guerre, raconte cette survivante. Je ne me rendais pas compte à quel point ce serait grave. Je me suis assise dans mon placard pendant un long moment. Je ne savais pas quoi faire. Les portes s'ouvraient et se fermaient. Et tout d'un coup, je n'avais plus de toit. Donc j'étais perdue. J'avais peur que tout s'effondre si j'ouvrais la porte. Voilà le témoignage d'une des survivantes. Alors nous parlons, plus de 6000 personnes sont toujours privées d'électricité dans ce comté de Lee. Une dizaine de tornades a traversé l'Alabama et la Géorgie hier.
Merci Chanel Petit. Retour en France et service minimum hier pour les surveillants de la prison de Roanne dans la Loire. Décision prise après l'agression particulièrement violente d'un de leurs collègues le matin. Un surveillant âgé d'une quarantaine d'années a reçu plusieurs coups de fourchette au cou, au visage et sur le crâne de la part d'un détenu qui l'escortait à l'infirmerie. Le détenu va être extrait de sa cellule et placé en garde à vue aujourd'hui. Des policiers ont essuyé des jets d'excréments à Marseille et Montpellier samedi lors de manifestations de gilets jaunes. C'est ce qu'ont rapporté des responsables du syndicat policier Alliance. Emmanuel Macron doit s'exprimer demain dans une tribune publiée dans la presse régionale. Objectif, lancer la campagne pour les européennes à 3 mois du scrutin. Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier soir à la télévision italienne où il a appelé à la réconciliation avec l'Italie. Il faut aller au-delà des malentendus, a-t-il dit. Avec son homologue Sergio Mattarella, ils célébreront ensemble les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci à Amboise, en Touraine, là où est enterré le peintre.
Europe 1, il est 6h05.
Les piétons étaient chez eux hier dans le centre de Paris.
Oui, comme tous les premiers dimanches de chaque mois dans la capitale. Depuis la fin de l'année dernière, les voitures ne sont pas les bienvenues dans les 4 premiers arrondissements, exception pour les VTC, les taxis et camions de livraison. Pierre Herbulot a arpenté les rues de la capitale pour vérifier si les interdictions étaient bien respectées.
Il ne faut pas plus d'une minute en plein milieu de la zone interdite aux voitures pour voir que la mesure n'est pas vraiment respectée. Avec un groupe de touristes lyonnais, on en a vu passer une quarantaine en à peine une minute.
Je savais pas que c'était sans voiture, mais j'ose pas imaginer comment c'est avec voiture alors.
Ça n'a pas l'air de marcher quand même. C'est plutôt un échec.
Et pourtant, les Parisiens, eux, voient la différence. Il n'y a pas photo même pour Étienne et Charlotte.
Il y a moins de circulation, c'est sympa, ça nous permet de se balader sans pollution et ça rend Paris aux Parisiens.
Non, mais c'est génial.
Oui, parce que des agents de la mairie barrent quand même l'accès au centre-ville, mais ça n'a pas empêché Jeanne et Quentin qui habitent les Yvelines de réussir à passer en voiture dans la zone interdite.
Il y a toujours autant de voitures dans tous les cas, donc un coin de Paris respire entre guillemets, mais toute la pollution est autour.
Et c'est complètement bouché autour. Hein. Ouais. Donc ça, en fait, c'est tout le monde est à la...
Donc c'est encore pire, quoi. Paris Respire, c'est le nom de cette mesure de restriction de circulation un dimanche par mois. C'est aussi une question de point de vue.
Voilà, Pierre Herbulot, que vous appréciez particulièrement.
Ah, j'apprécie beaucoup les reportages sur le terrain de Pierre Herbulot. Merci, c'était le journal de ma compatriote suisse, Céline Kallmann, une journaliste qui, dans cette tranche info hybride, oscillant entre rigueur journalistique et bonne humeur, a su, je crois, trouver la bonne distance vis-à-vis du présentateur, complice, mais jamais vulgaire, comme elle nous l'a prouvé le vendredi avant les vacances. Moi, je pars en Suisse, là.
Ah ouais, tu vas où ?
À Genève.
Il va voir son jet pour voir si ça fonctionne toujours. Parce qu'il faut vérifier la tuyauterie de temps en temps.
Ah, finesse des alpages quand tu nous tiens.
5h-7h sur Europe 1, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, plein feu sur la naissance d'un événement mythique et festif, le Carnaval de Rio.
Il est 6h07. Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Averses orageuses et vent au programme du jour.
Oui, c'est vrai. Hein. De fortes rafales de vent qui vont concerner toute la moitié nord et descendre jusqu'au massif central dans l'après-midi, jusqu'à 120 km à l'heure près des côtes. Des vents qui faibliront en début d'après-midi pour les départements les plus à l'ouest. Il faudra attendre la fin d'après-midi pour les autres. À l'intérieur des terres, ça grimpera jusqu'à 90 km à l'heure, voire 100 km à l'heure. Je vous rappelle que 44 départements de la moitié nord sont en vigilance orange à cause de ce vent. Côté ciel, couvert évidemment des orages aussi attendus, des pluies soutenues par endroits, un ciel plus calme cet après-midi sur une frange sud de l'Aquitaine à la Méditerranée.
Merci Céline. Eva, c'est aujourd'hui la Saint-Casimir.
Exactement.
Et ça vous fait quelque chose.
Mais oui, et puis surtout ça me fait poser une question depuis 5h ce matin à nos auditeurs. Quel est le héros de votre enfance ? Eh bien, Carole nous a répondu Pollux et mon papa, parce que c'est aussi des héros les papas. Jean-Pierre et Sima nous ont répondu Dorothée et toutes les séries du Club Dorothée. Et puis Cara Noia, qu'elle nous a répondu ça ?
Au pays de Candy, comme dans tous les pays.
Non mais Mais ça, vous l'avez pas regardé à la télé.
Comment ça? Mais si.
Ah non, mais vous étiez pas né, laissez tomber.
Mais il y avait des rediffusions de Candy. Moi, j'ai regardé oui, Candy, je crois.
Ah bon?
Ah oui, oui.
Je suis sûr que vous pleuriez devant Candy alors.
Oui, certainement, mais j'étais un enfant très sensible.
Ça, et Heidi aussi, c'était triste, Heidi. Heidi.
Oui, on sent qu'il y a un gros dossier et des années de thérapie derrière ça. Bon,
oui,
et
les
princesses Sarah, princesse Sarah,
hein.
On montrerait plus ça aux enfants aujourd'hui.
Rémi sans famille aussi.
Oui, c'était terrible, triste. C'était terrible, voilà. Montrer ça
d'accord.
À des enfants.
C'est une tranche info.
Voilà, c'est une tranche info et c'est pour ça que nous continuons. Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il nous a rejoint en studio, il est l'icône du sportif élégant et fair play. Performant dans l'effort, mais aussi dans l'humour, un humour toujours chic.
Plus envie de passer à la pompe.
Il n'y a pas d'heure pour passer à la pompe.
Ni à la casserole. Hein.
Bah quoi?
Voici Jérôme Lacroix.
Lassé, là, là.
Le summum du chic pour le journal des sports. À la une, mon GG.
Le bain quoi, il est magique.
Oui, le bain quoi sera utilisé dans d'autres occasions. À la une du journal des sports, puisque c'est de sport dont nous parlons maintenant,
s'il vous plaît.
Un showman.
Vous entendez cette séquence publiée hier soir sur les réseaux sociaux Instagram. Le footballeur de Marseille, Mario Balotelli, l'italien, c'est lui, il vient de marquer en Ligue 1 au Vélodrome contre Saint-Etienne. Et à peine le ballon au fond des filets, il file derrière le but, récupère un téléphone, filme sa joie et celle de ses coéquipiers, tout sourire. Et quelques secondes après, eh ben c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le foot 2.0. Et une célébration comme celle-ci, ben on n'avait encore jamais vu ça. C'est l'assurance d'un joli petit bruit sur les réseaux sociaux. Et c'était prémédité tout ça. Un salarié de l'OM, caméraman, se tenait prêt à transmettre le téléphone à Mario Balotelli sitôt qu'il marquerait. Le milieu Morgan Sanson raconte.
Mario, il m'en avait parlé dans la semaine. J'avais trouvé ça top. Lui, il voulait aller sur le banc pour prendre le téléphone. Mais j'ai dit non, c'est mieux que tu donnes au caméraman derrière le but. Et c'est lui qui donnera le téléphone pour faire la vidéo.
Des propos recueillis par Jean-François
Pérez. On les sent bien concentrés sur l'objectif sportif à Marseille.
En tout cas,
c'est pas mal.
Il a marqué, il a ouvert le score et le but est super.
C'est magnifique.
Mario Balotelli, spectaculaire, auteur hier de son 4e but en 6 matchs avec l'OM. Il est arrivé en janvier, un recrue du marché hivernal des transferts. Victoire finale 2-0 de l'OM, second but de Florian Thauvin et de 5 rencontres d'affilée sans défaite pour les Provençaux.
Des Marseillais dont vous vous êtes beaucoup moqué, mais qui sont désormais 4e au classement.
Ils dépassent leurs adversaires du soir, les Stéphanois, les Verts tombent 5e, 3e place, toujours pour les Lyonnais, vainqueurs des Toulousains 5-1 hier. Deuxième, les Lillois, victorieux 1-0 des Dijonais. Également hier, Nice-Strasbourg 1-0, Guingamp-Nantes 0-0. Un rendez-vous ce soir, 21h, match de préparation à la Coupe du Monde pour les filles de l'équipe de France, France-Uruguay. Redressement attendu à Tours à 3 mois du Mondial après la défaite la semaine dernière contre l'Allemagne.
Le PSG est à l'orée d'une semaine décisive.
Et oui, mercredi, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, réception de Manchester United. Pas de blague, il faut confirmer le succès 2-0 du match aller, mobilisation générale, sonne le Brésilien Marquinhos.
C'est la semaine qui arrive. De maintenant, il faut que tout le monde pense à ce match important. Maintenant, nous reste à finir le boulot à la maison. Il faut faire la même chose qu'on a fait là-bas, avec la même intensité, avec la même attitude. Et je pense qu'on peut le faire.
PSG Manchester United, mercredi soir, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. En bref, 5 médailles pour les Bleus de l'athlétisme au championnat d'Europe en salle de Glasgow, 2 en argent, 3 en bronze, on notera hier les 2e et 3e places de Pascal Martino-Lagarde et Aurel Manga sur le 60 mètres et puis le rugby. Et de 12 matchs d'affilée sans défaite pour le stade toulousain, inédit en top 14, hier 18e journée. Victoire toulousaine 28-9 à Paris face au stade français.
Terminons Jérôme avec l'histoire du jour.
Contre toutes les violences faites aux femmes, faire le bon appel est une question de survie.
Cette phrase, c'est le bleu champion du monde, Adil Rami, qui la prononce. Il est à partir d'aujourd'hui le visage d'une campagne contre les violences faites aux femmes dans un clip vidéo dont vous entendez ici un extrait. 3919, c'est le numéro de secours pour les femmes battues.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. En route, je ne sais pas. Tout de suite, GG, on retrouve celui à qui rien n'échappe. Ce week-end, il vous a d'ailleurs aperçu flânant sur les quais en charmante compagnie, hein, danoise, suédoise.
On l'a aussi croisé avec des Hollandaises à pinoir. Solide, rustique, bonne laitière et bonne en bouche.
N'entrons pas dans les détails, Fabrice. Voici le monsieur des grandes et des petites histoires, Fabrice Dalmédo.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Delmeda.
Bonjour à tous.
Samedi débutait le carnaval de Rio. Comment cette immense fête a-t-elle commencé, Fabrice?
Le carnaval, c'est cette vieille fête religieuse qui signe la fin du carême. Mais déjà dans les années 1840, à Rio, dans les bonnes familles, on organise des bals, comme d'ailleurs on le faisait au carnaval de Paris, qui était considéré à l'époque comme le modèle. Mais en 1893, Ilario Giovino Ferreira, un métis, fils d'esclave affranchi, a une idée pour mettre en valeur son tout nouveau groupe de danse folklorique. Il le fait défiler sur la place 11, une place du centre-ville de Rio, aujourd'hui disparue, le jour du carnaval, avec ses déguisements et ses bannières. Cela va ancrer l'idée du défilé dans la fête. Mais le carnaval de Rio est surtout connu à cause de cela.
Samba !
Mais oui, la samba ! Elle change tout ! Sur une idée d'un journaliste sportif, Mario Filho, un fan de foot, le 7 février 1932, en plein carnaval, encore sur la place 11, a lieu le premier concours entre écoles de samba. Le but est de promouvoir son journal Mondo Esportivo. L'année suivante, Filho confie son événement à O Globo, le puissant quotidien, qui lui accorde une immense publicité. Et bientôt, le défilé des écoles de samba devient le cœur du carnaval, jusqu'à éclipser les groupes de quartier et les ligues folkloriques qui en étaient à l'origine.
Et quand est-ce qu'il est devenu le carnaval, l'événement touristique qu'il est aujourd'hui ?
C'est surtout après 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement de l'avion le rend plus accessible. C'est devenu un des grands événements mondiaux, une attraction touristique ultra rentable. Et donc, avec Pelé et le foot, dont Mario Filho était un des grands commentateurs, le promoteur même, le carnaval est l'autre monument du Brésil. Un monument qui nous donne envie de danser, même à 6h du matin.
Oh, même à 6h16 du matin. Est-ce que vous pouvez me redire le nom du créateur, là, Ilario quelque chose, là,
avec Ilario votre accent. Giovino Ferreira.
Oh, magnifico. Bon, je magnifico, c'est pas du tout...
Enfin, j'ai dit Giovino, j'aurais dû dire Jovine, mais... Bon.
Jovine. Hein,
en tout cas, c'était très joli, on s'y serait cru. Merci beaucoup, Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On se retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'allégresse ponctuées de vraies questions. Ce matin, au moment où le salon de l'agriculture referme ses portes, on s'interroge, comment mangerons-nous demain ? Les Français veulent de plus en plus de qualité, de goût, de bio, mais pas trop cher. L'équation est-elle possible et pérenne ? À 6h20, nous poserons la question à Xavier Terlet, président d'un cabinet de conseil sur l'alimentaire. Qu'est-ce que vous faites, Eva ? Vous préparez déjà une interview ?
Je suis en train de regarder pour louer une bagnole la semaine prochaine.
Ah oui, ok, pour ceux que ça intéresse, restez avec nous, à tout de suite.
Il est 6h17.
Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier soir dans le centre d'Alger après l'annonce d'Abdelaziz Bouteflika. Il est bien candidat à un cinquième mandat, mais dans une lettre rendue publique aux médias algériens, le président actuel s'engage à lâcher le pouvoir dans un an après la tenue d'un grand débat national. Nouvelle tension hier soir à Grenoble, toujours dans le quartier du Mistral où sont morts samedi 2 jeunes à scooter poursuivis par la police. Une information judiciaire a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes du drame. Enfin, attention, aujourd'hui 44 départements de la moitié nord de la France sont placés en alerte orange en raison de vents violents.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce lundi 4 mars. Et l'actualité, c'est aussi la clôture du Salon de l'agriculture ce week-end et les 50 ans du marché de Rungis, deux événements qui mettent en évidence l'évolution des tendances alimentaires en France. Bonjour Xavier Terlet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de XTC World Innovation, un cabinet de conseil sur l'alimentaire. Alors, de récentes études le prouvent, les Français veulent de plus en plus d'aliments de qualité qui ont du goût, si possible bio, mais pas trop cher. Est-ce que c'est possible, ça, comme équation, déjà ?
Ah bah c'est nécessaire. C'est, il faut que ce soit possible, et c'est l'enjeu, justement, des industriels de l'alimentaire et de la production, de fournir des produits de qualité le moins cher possible.
Les producteurs, aujourd'hui, s'orientent tous par là. Ils répondent à l'attente des consommateurs.
Ils essaient de répondre à l'attente des consommateurs. Alors, les attentes qui, parfois, sont contradictoires. Hein. Parfois, on veut de la qualité, on veut du plus, mais on veut aussi des prix bas. Hein. Donc, il faut faire avec parfois ces contradictions du consommateur.
Il n'y a pas de corrélation, comme on pourrait le penser a priori, entre prix bas et qualité moindre de la nourriture.
La qualité a un coût. C'est indéniable. La qualité a un coût. Effectivement, aujourd'hui, les produits, par exemple, les produits bio sont plus chers que les produits classiques, même si les produits classiques sont tout à fait consommables et n'ont pas de problème de qualité. Mais le bio est une réassurance pour le consommateur. Il n'y a pas de pesticides. Ce sont des produits qui sont.
Est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce que quand on achète bio, on est sûr que c'est sans pesticides ?
On est sûr que c'est sans pesticides. Quand on achète des produits bio français, on est sûr que c'est sans pesticides.
Des produits bio français, vous dites ?
Absolument, parce que
c'est moins bien contrôlé.
Du bio européen. Après, il faut faire attention, savoir d'où viennent les produits. Mais si vous achetez des produits bio qui viennent du bout du monde, c'est un petit peu compliqué aussi, pour d'autres raisons.
Pour le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, la transition agroécologique de l'agriculture est effectivement irréversible. Les consommateurs veulent plus de bio. Qui sont les acheteurs du bio aujourd'hui ? Est-ce que ça commence à être tout le monde ou est-ce que ça reste des bobos en ville ?
C'est tout le monde. C'est tout le monde et ça sera de plus en plus tout le monde, si j'ose dire. Il faut savoir, par exemple, que le plus gros vendeur de bio aujourd'hui en France s'appelle Carrefour. Hein, ce n'est pas Biocoop, ce n'est pas Naturalia. Ce sont des grandes surfaces. Aujourd'hui, le consommateur veut aussi du produit bio, donc il faut que le produit bio ne soit pas trop cher. Et il est prêt à payer cette qualité, hein, c'est clair. Le consommateur fait des arbitrages. Il sait qu'un produit bio peut être plus cher qu'un produit classique, mais il veut ce produit bio, mais le moins cher possible.
Mais le chiffre m'a surpris, ils sont 3 sur 5, hein, selon une étude récente de l'Observatoire du rapport des Français à la qualité dans l'alimentaire. Ils sont 3 sur 5 à privilégier la qualité, quitte à payer plus cher.
Donc ça, c'est... Quitte à payer plus cher. C'est toujours un rapport bénéfice-prix, pas qualité-prix. Hein, parce que si qualité-prix, si on baisse le prix, on baisse la qualité. C'est des bénéfices. Parfois, on est capable d'acheter des produits bio, hein, pour le week-end par exemple. Parfois, on achète un sandwich et ben, on va chercher un sandwich classique. Voilà. Le consommateur est comme ça, il peut parfois avoir des comportements contraires.
Eva Rock.
Comment concilier l'exigence de ce prix justement avec le travail des agriculteurs ?
C'est compliqué. C'est justement le challenge. Donc le challenge, le défi, double défi si j'ose dire, des agriculteurs, c'est de produire plus déjà pour le marché national et pour le marché international, pour l'export, mais de produire mieux, aussi bien mieux en termes de qualité pour le consommateur et mieux pour l'environnement. Donc c'est compliqué.
Moi, en tant que consommateur, dans les rayons, j'ai remarqué une marque ces dernières années qui s'appelle C'est qui le patron, et dont le principe, quand on regarde un peu leur cahier des charges, c'est de permettre aux clients de fixer le prix des produits en rémunérant justement les producteurs. Et j'ai l'impression que cette marque, si j'en crois le nombre de références en magasin, est en train de connaître un succès.
Oui, donc oui, c'est un succès, parce que ce sont des produits tout à fait simples, du beurre, du lait, etc., et dont on assure que le prix légèrement supérieur par rapport au même type de produit est au bénéfice de l'éleveur. Donc ça, le consommateur est vraiment demandeur de ce type de produits, des produits sains pour lui, des produits bons pour les autres aussi. Il ne veut pas se faire plaisir aux dépens des autres. Donc il est clair qu'il veut que
Il y a quelques années, notamment quand il y a eu la crise, je pense que les gens n'étaient peut-être pas prêts à ils n'avaient pas le souci, disons, en tête de l'agriculteur, du producteur. Et aujourd'hui, je pense qu'on l'a plus, cette idée-là.
Et ça renvoie d'ailleurs au locavore aussi, hein, parce qu'on parlait du bio, mais comme vous le dites avec Merci Patron, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de cette alimentation
C'est qui le patron,
court.
Pas Merci Patron. Ça, c'est patron, vous qui me dites ça, je pense. À moi, c'est un message que vous m'envoyez directement. Mais...
C'est qui le patron ? Quelle est la part de l'alimentation en circuit court aujourd'hui ?
Elle est de plus en plus importante, parce que le consommateur, pour lui, le circuit court, il a plusieurs valeurs. Une valeur aussi de il sait ce qu'il mange. Hein. Vous savez que le consommateur, on aime ce que l'on connaît, on connaît les produits qui viennent de près de chez soi. Et puis, il sait que s'il achète un produit de ce type-là, c'est au bénéfice peut-être d'un éleveur du coin. Donc, c'est un élément positif pour le consommateur. Donc, de plus en plus de produits proches de chez soi.
Et ça réduit l'empreinte carbone aussi. Tout ça se relie, c'est win-win, comme on dit. Parmi les tendances, on parle aussi pas mal de la lutte contre la souffrance animale et aussi de véganisme. Quelle est la réalité du mouvement vegan aujourd'hui en France ?
Alors, il y a la souffrance animale et il y a le véganisme.
Oui, c'est
deux choses différentes.
Effectivement,
hein, les consommateurs aujourd'hui pour la souffrance animale sont plus soucieux de cela. Et ça, c'est là aussi un enjeu pour les éleveurs. Le véganisme, les véganes, 0,7% de la population. Donc, 0,7, c'est un tout petit marché. On parle aujourd'hui des mots compliqués. Les marketeurs aiment bien les mots compliqués. Le flexitarisme, ce sont des gens, des consommateurs, vous, moi, ou qui privilégions le végétal dans l'alimentation, en cœur de repas. Ça, c'est près de la moitié de la population.
Est-ce qu'on est plus exigeant en France ? Est-ce que le consommateur français, on connaît la grande tradition française culinaire, est-ce que le consommateur français est plus exigeant que dans les autres pays ?
Le consommateur français est le plus soucieux, conscient du risque alimentaire au monde. Au monde. C'est-à-dire, c'est celui, on le voit bien, en France, il n'y a qu'en France qu'on voit une couverture médiatique sur les scandales alimentaires. C'est tout simplement parce que, c'est pas parce que les médias aiment ça, c'est parce que le consommateur est soucieux de ce qu'il mange et il est vraiment inquiet de peut-être d'avoir des problèmes en mangeant de ce qu'il a dans son assiette.
On est aussi champion du monde de ça. Merci beaucoup Xavier Terlet, président de XTC World Innovation, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avant de retrouver le journal de 6h30 de Sébastien Krebs. La météo revient et ça se dégrade joliment. Euphémisme pour dire tous aux abris.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Je crois qu'il est amplement temps de faire un point sur la météo du jour, d'autant que le temps est très agité.
Oui, oui. Après ces quelques semaines de temps calme et même très agréable, les conditions se dégradent, alors ce sera la journée la plus agitée de la semaine. Même si après on aura quelques accalmies, le ciel sera aussi chargé avec des averses. Donc aujourd'hui, une journée pluvieuse avec du vent et des orages à cause de cette tempête Freya qui touche le Pays de Galles et les îles britanniques en ce moment et qui déborde chez nous. Des vents forts sur toute la moitié nord, 44 départements sont en vigilance orange du Morbihan jusqu'en Alsace, au Jura, la région centre et puis les Hauts-de-France. Du vent mais aussi des pluies régulières entre le sud-ouest et la Lorraine pour ce matin. Averse également pour le nord-ouest avec des orages, de fortes rafales de vent, je vous le disais. Ça va souffler jusqu'à 120 km à l'heure sur les côtes, 80 à 90 km à l'heure dans les terres. J'ai vu passer des relevés où sur la pointe bretonne ça soufflait à 150 km à l'heure. Donc soyez très prudents, évidemment, si vous devez vous déplacer. Là où c'est plus calme ce matin, c'est dans le sud-est. Et puis cet après-midi, ça sera sur une frange sud entre le sud-ouest et près de la Méditerranée. Puis les vents vont se calmer également sur l'ouest en début d'après-midi. Et puis pour les autres, il faudra attendre la fin de journée.
Un mot des températures ?
Qui reste assez douce pour ce début mars. 4 à 10 degrés ce matin. C'est très doux même à Paris avec 12 degrés. Ça grimpe même jusqu'à 18 à Tarbes. Et puis cet après-midi, elles vont baisser. On va perdre 4 à 8 degrés avec ces passages pluvieux. 10 à 14 degrés attendus sur la moitié nord en moyenne avec 11 à Paris. 13 à 20 degrés pour la moitié sud. Il en fera 20 à Nîmes.
Merci Céline. À suivre dans moins d'une minute, le journal de Sébastien Krebs.
Europe 1. Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Marc Riez, vous êtes directeur de la gestion financière déléguée pour les caisses d'épargne. La gestion sous mandat, c'est quoi et ça s'adresse à qui?
En fait, la gestion sous mandat s'adresse au client qui n'a pas le temps ou l'expertise pour gérer seul son portefeuille. Nous lui proposons donc de déléguer cette gestion à nos experts qui vont mettre en œuvre des solutions de placement personnalisées.
Qu'entendez-vous par placement personnalisé?
En fait, nos experts vont sélectionner en fonction du profil de chaque client, de son appétence au risque, des solutions d'investissement au plus près de leurs attentes. Ensuite, c'est nous qui gérons les placements au quotidien, en toute transparence, et en les informant régulièrement des opérations réalisées.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures au carrefour du journalisme le plus exigeant et de la bonne humeur la plus joviale, même si parfois ces consignes éditoriales contradictoires aboutissent à des résultats étonnants, voire gênants. Comme lorsque vendredi dernier, nous avons reçu dans nos casques l'ordre, je cite, de faire plus long sur le lancement du foot parce qu'on était en avance. C'est Rennes qui jouait, trouvait un truc drôle et brodait autour, nous lançait notre réalisateur, un peu trop confiant sur notre capacité à trouver comme ça dans l'instant un truc drôle à dire sur Rennes. Alors David Doucan s'est lancé.
Mon cher Mathieu, ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons.
Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne.
Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons.
Dédicace à la pointe bretonne.
Suite à cet événement malheureux, David Doucan a souhaité prendre un peu de recul. C'est pour ça qu'il n'est pas là cette semaine, remplacé par Sébastien Krebs, qui, espérons-le, fera preuve d'une plus grande lucidité.
Vous écoutez Europe 1, 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici donc le journal de 6h30 présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Et l'inquiétude chez les Restos du Cœur, il n'y a pas assez de bénévoles cette année pour organiser la grande collecte de denrées alimentaires prévue à la fin de la semaine. L'Algérie, Bouteflika face à la rue, confirme officiellement sa candidature mais promet de ne pas finir son 5e mandat. Les Algériens sont immédiatement ressortis manifester hier soir. Et puis les cyclotouristes, grands oubliés des trains flambant neufs entre Paris et la Normandie, il y aura beaucoup moins de place pour les vélos.
Europe 1.
D'abord donc cet appel au secours des Restos du Cœur. L'association organise le week-end prochain sa grande collecte nationale dans les supermarchés pour recueillir vos dons de denrées alimentaires. Sauf que cette année, eh bien, il manque terriblement de bénévoles et risque de ne pas pouvoir être présent partout. Écoutez Jean-Claude Guédon, le secrétaire général des Restos.
Il y a encore besoin de se mobiliser presque partout. On pourrait donner de très nombreux exemples dans toute la région des Hauts-de-France, autour des grandes villes, à Paris énormément, à Nantes, enfin sur toute la France. Il y a partout quasiment besoin de bénévoles. Il y a même quelques centres où il faut des responsables de la collecte. Et puis c'est quand même une opération qui est assez fatigante, il faut être disponible. Donc être là tout le week-end, c'est très bien si vous pouvez, mais si déjà vous pouvez accorder une demi-journée, c'est déjà très bien. Notre objectif et d'obtenir au moins 8000 tonnes. Il y a plus de magasins encore cette année que l'an dernier. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de plus de bénévoles. Donc, il y a besoin de renforcer les équipes.
Propos recueillis par Marguerite Lefebvre. L'actualité ce matin, c'est aussi ces manifestations qui continuent en Algérie. Les jeunes ont occupé la rue encore hier soir dans le centre-ville d'Alger après l'officialisation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Sa promesse de ne pas l'exercer en entier et de se retirer à un moment en organisant des élections anticipées ne suffit pas à calmer la contestation. Les Algériens de France sont aussi descendus dans les rues de Marseille et à Paris, place de la République. Jean-Jacques Herry.
Maintenant que le dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika est officiellement déposé, c'est la suite qui fait un peu peur à Yasmina. Elle soutient les manifestations, mais chez elle, l'enthousiasme se mêle à la crainte, car les fantômes de la décennie noire sont toujours là.
Mon plus grand souhait, moi, c'est qu'il n'y ait pas une guerre civile. Ça, je veux pas. Je veux que ça se passe dans la sérénité.
Au pied de la statue de Marianne, l'attitude de la France soulève aussi de nombreuses questions. Pourquoi Macron est-il aussi timide? Ça me rappelle la Tunisie et la chute de Ben Ali, l'âge Adam. À côté, sa maman algérienne et son papa français acquiescent.
Il y avait eu 10-15 jours pendant lesquels la France ne se positionnait pas vis-à-vis de Ben Ali. On attend de voir comment le vent tourne, on attend de voir dans quelle direction ça ira. Et la France a loupé le train avec la Tunisie. La France doit choper le bon wagon cette fois-ci.
Pour d'autres comme Youssef, il y a trop d'intérêts en jeu.
Macron, c'est pour ses intérêts déjà. Parce que déjà, la France, elle prend 65% du gaz algérien. Elle ne veut pas se mêler parce que déjà, elle a des intérêts envers les 40 voleurs qui sont en Algérie.
Pour lui, les 40 voleurs, Bouteflika et son camp sont allés trop loin cette fois-ci. On ne reculera plus, conclut-il.
Un reportage de Jean-Jacques Herry pour Europe 1. En pleine campagne européenne, Emmanuel Macron tente la réconciliation avec l'Italie de Matteo Salvini. Il y a eu des propos excessifs, des péripéties, il faut aller au-delà, dit le président français. C'était hier soir sur une chaîne italienne. Il a aussi invité son homologue italien Sergio Mattarella à venir célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci à Amboise dans quelques mois.
Europe 1, il est 6h33.
Prudence, ce matin, si vous mettez le nez dehors, vous allez voir, ça souffle très fort. 44 départements, tout le quart nord Reste et une partie de la côte atlantique sont en vigilance orange jusqu'à 18h ce soir en raison donc de ces vents violents. Aux États-Unis, là, c'est une tornade qui a provoqué des dégâts considérables dans l'Alabama, du vent à 266 km/h, bilan 22 morts et plusieurs disparus. Et ce chiffre pourrait encore augmenter. Les animaux ont regagné leurs exploitations cette nuit. Ça y est, le salon de l'agriculture a fermé ses portes après 9 jours, mais une fréquentation en baisse cette année. Maud Descamps.
Dans les allées du salon cette année, 630 000 visiteurs, c'est 40 000 de moins que l'an dernier. Rien d'inquiétant pour Jean-Luc Poulain, président du Salon d'Agriculture.
Est-ce que c'est dû au climat social? Est-ce que c'est dû au climat tout court? J'en sais rien, c'est une baisse. Nous, 620-650, c'est une fourchette satisfaisante.
Sur les 9 jours de salon, 57 visites officielles, 68 délégations étrangères et de belles opportunités commerciales pour les éleveurs comme Marjorie, éleveuse dans les Vosges.
On a eu beaucoup de contacts pour de la vente d'animaux. C'est l'occasion de faire du business. Bah, par exemple, il y a une vache sur les 5 Vosgiennes qui s'est vendue. Donc voilà, on a eu plusieurs contacts dans plusieurs régions. Donc on va faire le mieux pour combler ces demandes.
Il y a aussi quelques déçus comme Henri, 70 ans, 30 ans de salon de l'agriculture et une certaine nostalgie du bon vieux temps.
Mais il y a 15-20 ans, oui, c'était agréable. Ils venaient avec leurs enfants, on allait passer un quart d'heure à discuter, parler vraiment de l'élevage. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas beaucoup de conversations. Non, les gens ne demandent pas grand-chose.
Hein. Et même si pour Henri, c'était mieux avant, l'éleveur a déjà prévu de revenir avec ses blondes d'Aquitaine l'année prochaine.
Maud Descamps pour Europe 1.
À suivre dans ce journal, si vous avez l'habitude de prendre votre vélo avec vous quand vous prenez le train, ça va se compliquer. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite.
Il est 6h35.
Europe 1.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal, Sébastien Krebs et le sang de Michel Drucker va faire un tour. L'information qui suit va intéresser tous ceux d'entre vous qui aiment le vélo.
Et qui prennent plaisir à mettre la bicyclette dans le train pour partir à l'aventure. Eh bien, ça va se compliquer. Les nouveaux trains intercités prévoient moins de place pour les vélos. Ces rames Omnéo circuleront l'année prochaine vers la Normandie. Marion Jort.
À partir de 2020, il y aura 6 fois moins de place pour les vélos dans les trains reliant Paris à Cherbourg et Paris au Havre. 3 emplacements par rame contre 18 aujourd'hui. Marc Le Rocher de l'association cannaise Les Dérailleurs dénonce une décision incompréhensible.
Imaginez en fait l'exemple d'une famille de 4 personnes. Ils se présentent sur le quai de la gare, il n'y a que 3 places, donc il y en a un qui va tirer la courte paille pour savoir qui reste sur le quai. C'est une situation qui est complètement aberrante à la fois pour la transition écologique et à la fois pour le tourisme à vélo et le tourisme durable en Normandie.
La région Normandie, qui mise en effet sur le développement du tourisme à vélo, a consulté plus de 10 000 personnes avant la commande de ses trains il y a 2 ans. tous normands, les touristes n'ont pas été questionnés et les emplacements vélos sont arrivés en dernière priorité, explique Jean-Baptiste Gastine, vice-président du conseil régional.
Dans un train, évidemment, l'espace il est contraint, donc on a des choix à faire. Il aurait été curieux de ne pas tenir compte de l'avis des normands. On verra quel est l'usage qui est fait de ces espaces vélos et il y aura toujours possibilité de s'adapter.
Et depuis, un amendement européen voté en octobre dernier impose au moins 8 emplacements vélos dans tous les trains neufs et rénovés.
Marion Jorde pour Europe 1. Et à vélo, le patrimoine français n'est plus qu'à un coup de pédale. Ces monuments dont la France regorge et qui manquent souvent d'argent pour être rénovés. D'où le loto du patrimoine. L'an dernier, 269 projets ont été financés grâce à lui. Et pour la deuxième édition à venir, les candidatures sont closes et ça se bouscule au portillon. Justin Morin.
Plus de 800 projets reçus, auxquels il faut ajouter les quelques 2500 qui n'ont pas été sélectionnés l'an passé. Les membres de la mission patrimoine se préparent déjà à des choix cornéliens. Stéphane Bern et les autres décideurs vont devoir sélectionner une centaine de dossiers, un par département, plus 18 autres monuments jugés emblématiques, les têtes d'affiche en quelque sorte du prochain loto du patrimoine, dont le tirage aura lieu le 14 juillet. Pour vous donner une idée, l'an passé, la maison du poète Aimé Césaire à Fort-de-France a été choisie, ou le Fort Cigogne construit sur l'île de Fouesnant, mais aussi la rotonde ferroviaire de Montabon dans la Sarthe, un hangar qui pouvait accueillir jusqu'à 85 locomotives à vapeur. Une association de passionnés l'a sauvé de la destruction en 2009 en rachetant le site. Bruno Duru, le président, a reçu un premier chèque pour lancer la rénovation de la toiture.
Ça, c'est vraiment en cours, vous voyez. On discute là du permis de construire qui est vraiment la première phase. Ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. La rotonde était vouée à disparaître à un moment ou à un autre. On n'aurait jamais eu les moyens, qui que ce soit, pour simplement refaire la couverture.
Cette mise en valeur crée aussi un véritable engouement populaire. Lors des dernières journées du patrimoine, la rotonde ferroviaire a accueilli plus de visiteurs que sur l'ensemble de l'année précédente.
Justin Morin pour Europe 1, tirage au sort de cette cagnotte du loto du patrimoine le 14 juillet prochain.
Merci beaucoup, c'était le journal de Sébastien Krebs, journaliste émérite, mais aussi malicieux, facétieux, spécialisé dans les ascenseurs émotionnels. Dernière victime en date, Nikos, dans le 7-9 d'Europe 1, qui a découvert à ses dépens le côté farceur de Sébastien.
Allez-y, Sébastien. Ça commence dans un hélicoptère qui survole la Nouvelle-Zélande et d'un coup, un pantalon s'échappe de la cabine. Le pantalon se prend dans les rotors, là vous allez moins rire.
Arrêtez.
Terrible.
Oh
les trois
Dieu.
Passagers sont morts, ça s'est passé le mois dernier.
Ah, bravo Sébastien, vous l'avez bien séché Nico sur ce coup-là. On passe à la météo avec vous, Céline Dacosta.
Il n'y avait pas la musique comme ça quand même, hein, reconnaissez-le. Attendez, on a l'impression que Sébastien...
C'est bien de le souligner, ouais. Bah, pour les gens
non,
qui pourraient
pardon.
Penser que je suis au premier
Merci
degré, bah, c'est bien de le préciser, effectivement. Oui. Il n'y avait pas la musique de cirque, non, effectivement. Oh mon Dieu, Eva, je crois qu'il est temps de prendre des vacances. C'est quand vos vacances, Eva?
En avril.
À la fin du mois.
Ouais, vous ne pouvez pas les rapprocher un petit peu, parce que je ne suis pas sûr que vous tiendrez jusque-là. Attention au vent, les amis, journée compliquée. Sur
oui,
le
oui,
de la météo.
On vous le répète, hein, depuis ce matin, des rafales jusqu'à 90, voire 100 km à l'heure attendues dans les terres, jusqu'à 120 sur les côtes, et même plus, hein, puisqu'on a des relevés. Belle-Île, en Bretagne, 151 km à l'heure ce matin. À Nantes, 105 km à l'heure. Et puis également sur près de la Manche, hein, 129 km à l'heure relevés au Cap Griné et 110 à Dieppe. Vous voyez, ça souffle fort. Donc prudence si vous devez vous déplacer. Côté ciel, c'est souvent couvert avec de la pluie, des orages, un ciel très agité. L'accalmie côté vent, c'est cet après-midi pour l'ouest, ce soir pour les autres. Le tout sous des températures encore très douce pour un début mars, hein, 10 à 20 degrés du nord au sud pour cet après-midi. Il en fera 11 à Paris, 20 degrés à Nîmes. Ça baisse quand même par rapport à hier puisqu'on perd de 4 à 8 degrés.
Tout de même. Merci beaucoup Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, à suivre. Politique, économie, médias, chaque matin, les trois fantastiques vous éclairent au saut du lit. Au programme aujourd'hui, le top départ de la campagne d'Emmanuel Macron pour les européennes. Une réussite économique bluffante, celle de SpaceX. Et la vie tout en nuances de notre expert média Eva Rock sur la nouvelle série de France 2. Soit j'étais très fatigué, soit c'était vraiment pourri, me confiait-elle tout à l'heure.
C'est vrai.
Dans un soupir.
Il est 6h41.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les Algériens à nouveau dans la rue hier soir après l'officialisation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Le président s'engage toutefois à ne pas l'exercer en entier et promet d'organiser des élections anticipées auxquelles il ne participera pas. Prudence, ça souffle très fort ce matin. 44 départements sont placés en vigilance orange en raison de vents violents. La côte atlantique du Morbihan à la Vendée et tout le quart nord-est. Vigilance qui court jusqu'à 18h ce soir. Enfin, le foot et l'OM qui chippe la quatrième place de la Ligue 1 à Saint-Etienne battu 2-0 hier soir au Vélodrome. Marseille désormais juste derrière Lyon, qui a écrasé Toulouse 5-1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont au journalisme hexagonal, ce que le PSG est au foot français. Une équipe si exceptionnelle, avec un banc si fourni, que même quand Neymar est blessé, ils sont quand même fiers à l'heure. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et pour suppléer le dauphin d'or, Axel de Tarlé, parti se dorer la nageoire aux Maldives. Il nous fallait du lourd, du très lourd. Voici donc, mesdames et messieurs, ni plus ni moins que le chef du service économie d'Europe 1.
Et politique, les deux.
Sous vos applaudissements, Emmanuel Dutheil, un journaliste minutieux, perfectionniste, comme lorsqu'il interviewe quelqu'un dont le nom, mal prononcé, pourrait aboutir à un moment gênant à l'antenne.
Juste sur la prononciation de votre nom, que je ne dis pas de bêtises, Sapé. On ne prononce pas le T à la fin. Okay.
Dommage que vous lui ayez demandé, on se serait bien marré avec ce Dominique Sapé. Emmanuel, ce matin, vous nous parlez.
Eh bien moi, je vais vous parler des Américains qui vont enfin pouvoir renvoyer eux-mêmes des astronautes du côté de la station internationale.
C'est le succès de SpaceX. On y vient, mais d'abord, l'actualité politique. Mickaël Darmon, la campagne des Européennes est lancée par Emmanuel Macron. Une tribune sera publiée dans la presse européenne demain. Et hier soir, Emmanuel Macron était interviewé à la télé italienne. Pourquoi ?
Avanti.
Pourquoi bien avoir choisi ce pays ?
Eh bien, pas de hasard. Pays doublement symbolique. Hein, d'abord à cause des tensions récentes avec le pouvoir italien. Fait inédit. Donc, sur la première chaîne publique italienne, le président français réaffirme des liens très proches entre les deux pays après les tensions de ces derniers temps, en parlant de péripéties. Hein, vous savez, c'est son mot préféré pour banaliser un événement. Mais c'est aussi une information. Il a voulu marquer l'empreinte de la campagne en critiquant les nationalistes, sans jamais d'ailleurs nommer les dirigeants italiens. Il faut savoir que ce sera au thème, hein, au cœur de cette campagne, ce thème de la lutte contre les nationalistes pendant les européennes. On va le voir à travers tout le dispositif qui sera bientôt connu. Les pays et les régimes illibéraux seront montrés du doigt. Une dramatisation d'ailleurs qui permet également de ne pas trop se focaliser sur les difficultés françaises pour imposer une vision européenne, hein, car Emmanuel Macron quand même se heurte au poids des intérêts nationaux. L'épisode de la rentrée des Pays-Bas au capital de KLM Air France illustre bien, entre autres, cette difficulté d'imposer sa vision européenne.
Autre registre sur lequel le président veut contourner une difficulté, l'écologie. Et il peut compter sur un pôle d'écologistes constructifs, c'est ça ?
Absolument. Alors, un petit comité, il faut savoir qu'Emmanuel Macron l'affirme, et je reste poli, je me suis fait avoir une fois par Nicolas Hulot, pas deux fois. Donc, en conséquence, après des négociations discrètes entre Stéphane Séjourné, des anciens écologistes passés au centre comme Christophe Madrol, et bien voilà un nouveau rassemblement d'écologistes progressistes qui voit le jour, soutenu donc par également l'Élysée. Emmanuel Macron voit bien qu'effectivement il faut faire avancer cette thématique. Une tribune a été publiée, elle rassemble des acteurs économiques et politiques en faveur de la croissance verte. Leur mission, eh bien, se tenter de concurrencer les écologistes plus classiques en rupture avec la Macronie, bref, la hulosphère. Ce nouveau pôle, en fait, pourrait trouver sa place dans la plateforme donc soutenue par La République En Marche. On le voit bien, il y a un coup d'accélérateur qui est donné à cette campagne. Hein. Le coup d'envoi officiel, ce sera le 30 mars. Et donc, entre la fin du grand débat et la préparation du premier scrutin national depuis 2017, les premiers bourgeons politiques font leur apparition.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. De la politique, nous passons à l'économie avec cette semaine Emmanuel Dutheil. Emmanuel, ce week-end, le lanceur de fusée américain SpaceX a réussi un très gros coup.
Oui, alors il est tôt, je vais quand même vous rappeler quand même qui est peut-être SpaceX.
Ah,
c'est un groupe privé fondé par Elon Musk et cet inventeur un peu fou, hein, qui a aussi lancé les voitures électriques Tesla et qui a été un des fondateurs du site de paiement PayPal. Donc là, en effet, ce week-end, ils ont réussi un très gros coup. Ils ont réussi le vol d'essai d'une capsule habitable. Elle a réussi à rejoindre la station spatiale internationale et ça, c'est une avancée gigantesque. Jusque-là, SpaceX avait juste gagné le contrat du ravitaillement de la station internationale. Depuis la mise à la retraite il y a maintenant quelques années des fusées de la NASA, les Américains doivent faire appel aux Russes pour envoyer leurs astronautes dans l'ISS, ce qui pose quand même quelques questions de souveraineté puis accessoirement quelques questions de gros sous parce que le coût par place payé par la NASA, c'est environ 80 millions de dollars. Bon, on a l'aller-retour quand même à ce prix-là.
Quand même. Et donc là, ils vont pouvoir reprendre leur autonomie.
Oui, c'est bien parti. La capsule est bien arrivée à l'ISS. Mais bon, pour le moment, il n'y avait qu'un mannequin à l'intérieur. Ce mannequin a été surnommé Ripley. Il faut y voir une référence à l'héroïne du film Alien.
Ah, oui.
Et même si ce vol a été réalisé avec beaucoup de retard, mais ça, c'est assez habituel chez SpaceX, ils ont réussi à prouver qu'ils pouvaient le faire. La capsule devrait revenir ce vendredi sur Terre. Si tout se termine bien, les premiers vols habités pourraient avoir lieu dans les mois à venir. Mais bon, avec SpaceX, il faut quand même toujours faire attention au calendrier.
Mais Emmanuel, pourquoi Ariane ne fait pas ce genre de vol ?
Et ça, c'est vrai que c'est la bonne question. Bah, tout simplement parce que SpaceX a ringardisé Ariane. Ils lancent aujourd'hui plus de satellites que notre fusée européenne. Ils ont développé une technologie qui permet de récupérer une partie de la fusée, donc grâce à ça, de limiter les coûts. Ariane n'y a pas cru au démarrage. On peut même dire qu'ils ont bien rigolé. Et du coup, maintenant, Ariane court derrière. Ils rigolent un peu moins. Ça, en tout cas, c'est pour les lancements classiques. Mmh. Pour les vols habités, ça ne fait pas vraiment partie de la stratégie d'Ariane. Il y a quelques mois, il y avait quand même une rumeur, hein, comme comme quoi Ariane pourrait se lancer dans la course. Mais le patron d'Ariane était venu au bon endroit, c'est-à-dire sur Europe 1, pour remettre les pendules à l'heure et dire que non, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Et là, vraiment, l'objectif pour Ariane, c'est Ariane 6, leur nouvelle fusée, qui doit permettre de lancer des satellites de façon moins coûteuse et donc au moins faire la course de ce côté-là avec SpaceX.
Merci
comme
beaucoup.
Quoi, il est pas si fou que ça, Elon Musk, hein. Non mais c'est vrai, à chaque fois on dit très que c'est n'importe quoi. Non mais vous êtes d'accord, on en a déjà parlé.
On peut être fou et avoir raison.
Oui voilà, c'est ça, mais à chaque fois on a dit que ça n'aboutirait jamais ces projets en attendant.
Mais
voilà.
Vous savez que c'est dans les tuyaux, on va partir tous les deux.
On va partir
on
tous les deux.
On fera une déloc, la plus grande déloc d'Europe 1 avec SpaceX.
Ah,
c'est le partenariat est en train d'être tissé. Hein. Financièrement je crois que ça pose quelques problèmes, mais bon apparemment
80 millions de dollars
on aurait quand même un feu vert.
Ouais, c'est ça.
Et Varro, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, ou plutôt qu'est-ce qu'on ne regarde pas?
Alors non, vous m'avez tué mon suspense. Alors attendez, écoutez bien. Nouvelle série policière sur France 2 avec Marc Lavoine et Sofia Essaïdi dans les rôles principaux. A priori, il y avait de quoi attirer mon attention. L'histoire de Samuel, l'histoire de Samuel Kepler, c'est un flic muté à Calais, une sorte de placard pour un policier doué, mais victime, semble-t-il, de maladie mentale, avec en fond de toile, en plus, la crise des migrants à Calais.
Vous avez déjà vu un mode opératoire tel que celui-ci?
Non, c'est la première fois que je vois une mise en scène pareille. Le tueur l'a coiffé, habillé...
Putain de migrant.
C'est une déclaration de guerre.
Quelqu'un cherche à les faire accuser, ça vous est pas venu à l'esprit?
C'est qui ce connard?
À nouveau, il s'est fait muter de la PJ de Paris. Il a merdé pendant une descente. Il y a des types de chez nous qui sont morts.
Alors, deux acteurs ne font pas une série et je dois dire que cette fiction est très décevante. À la fin du premier épisode, vous n'avez toujours pas compris de quoi souffre Kepler. Vous n'avez toujours pas compris non plus quelle est l'histoire familiale de l'agent Ali Sadat qui est interprété par Sofia Essaïdi. Les comédiens, ils font ce qu'ils peuvent. Il y a quelques moments réussis, notamment quand Marc Lavoine donne la réplique à sa fille dans la série qui se trouve être sa fille dans la vie. Mais ça laisse quand même comme un goût d'inachevé pour pas dire autre chose. Alors, j'ai préféré me rabattre ce soir sur un film d'animation très réussi, lui. C'est sur Gulli à 20h55. Ça s'appelle Gulli. Petit oiseau, grand voyage.
Vous voyez cet oiseau majestueux qui vole dans le ciel? Celui qui est tout en premier là. Et ouais, c'est moi, Gus. Au départ, c'était pas gagné, hein, mais alors pas du tout.
Ah! Alerte rouge! Mode panique maximum! Ah!
Parce qu'en fait, j'ai été élevé par une coccinelle.
C'est l'occasion rêvée de faire partie d'une vraie famille.
Alors Gus est un oisillon qui décide de conduire en Afrique une famille d'oiseaux migrateurs, un voyage avec beaucoup de détours et de péripéties. Premier film réalisé en 3D en France, ce long métrage de Christian De Vita est empli de poésie, de couleurs et de drôlerie. Un voyage initiatique qui devrait ravir les enfants dont certains sont encore en vacances, il faut aussi penser à eux.
C'est pour ça que vous pensez
c'est pour ça, mais bien sûr.
Pensez à tout, Eva, c'est incroyable. Merci beaucoup Eva Rock, merci Emmanuel Dutheil, Mickaël Darmon, l'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart. En attendant Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
1,69 l'année d'après et encore un 69 l'année d'après.
Ah oui, chiffre fétiche.
Europe 1. 5h-7h sur Europe 1, Mathieu Noël.
L'équipe de Debout les copains va bientôt s'éclipser pour laisser la place au 7-9, qui sera précédé, comme le veut la tradition ancestrale, par le débrief. Un florilège totalement partial des moments les plus savoureux de la matinale, à l'antenne comme hors antenne, car début mars, tous les journalistes de la rédaction le savent, même durant les coupures pubs, les micros continuent de tourner, enfin tous. Pas Jean-Philippe Ballas.
Ça va ?
Il n'y a que toi et moi dans ce studio.
Mais tu sais qu'on est écoutés de toute façon, on n'est jamais ici.
Eh oui, piégé. Les coulisses du 7-9 d'Europe, hein, dans un instant.
Il est 6h53.
Non.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais vous le savez, à cette heure-ci chaque matin, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas, sans Nikos Aliagas ce matin, puisqu'il est en vacances et qu'il est remplacé par son joker numéro 1, Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Villeneuve, un joker très différent du deuxième joker de Nikos, Bernard Poirette. Un style plus old school, disons plus brut de décoffrage.
Non, on refait tout, là c'est de la merde, on peut pas faire de la dentelle là-dedans.
Alors oui, on l'embrasse d'ailleurs au passage. Pierre de Villeneuve, c'est autre chose.
Déjà le châssis.
C'est vrai, le châssis, mais pas que. Pierre de Villeneuve, c'est le joker numéro 1 et partant, c'est aussi celui qui a le plus de desiderata.
Un siège sur coussin d'air, s'il vous plaît, monsieur.
Ça va, monseigneur est bien installé?
Très bien.
Alors, je me permets de donner à monseigneur quand même quelques conseils pour une matinale réussie. 1. Prendre conscience de l'enjeu. J'espère, mon cher Villeneuve, que vous mesurez la pression qui pèse sur vos frêles épaules, car Europe 1, c'est la radio du grand reportage, de l'investigation avec un grand I.
Comme en témoigne ce reportage de François Coulon, qui s'est rendu dans un élevage de dindons. Reportage.
Bon, pas toujours, mais parfois. 2. Présenter la matinale d'Europe 1, c'est être journaliste, bien sûr, mais c'est surtout être acteur. Pourquoi croyez-vous que Nikos Aliagas soit absent ce matin? Eh bien, parce qu'il est allé récupérer sa statuette à Los Angeles. Meilleur acteur dans un journal radio pour sa stupéfiante interprétation de l'excitation face à un reportage de Carole Ferry. Écoutez et prenez-en de la graine.
Comment ça va, Carole? Vous êtes où ce matin?
Eh bien, écoutez, ça va très bien et je suis au cinéma à Berck-sur-Mer.
Ah bon? Magnifique.
J'ai les clés parce que je suis avec le programmateur Didier Dupuis.
Quelle chance!
Il faut pas en faire trop non plus, mais Pierre, je crois en vous. Personnellement, je suis ravi, les amis, d'être de retour de vacances. Et je l'avoue, un peu triste d'avoir manqué the événement de ce début 2019. L'énorme teuf que vous avez faite à l'antenne pour le 100 millième bulletin météo, à 300 près, de Laurent Cabrol. Un happening surprise qui avait visiblement été mûrement préparé en amont et qui a mobilisé des moyens financiers et humains assez exceptionnels.
Laurent Cabrol, ça fait quand même quelques décennies que vous êtes là à l'antenne. Ouais. Et vous avez dépassé les 100 000 bulletins météo.
Bravo!
Vous faites la météo depuis 86, ça veut dire 32 ans, vous avez succédé à Albert Simon. Oui. Et vous êtes toujours à la pointe, mon cher. Et on vous aime, merci beaucoup. L'éditorial.
Restons-en là.
Oh là là, je voulais pas que ça se sache.
Bravo en tout cas, Laurent.
Bravo en tout cas. Bravo, bravo Laurent. Si j'avais été là, il y aurait eu plus d'ambiance pour cette 100 millième, hein, je vous le dis. Hein.
Merci Mathieu Noël, on vous retrouve demain. Et nous aussi, on est ravis que vous soyez de retour de vacances.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.